Ah oui, Barbus. Fatalité. Le long du mur nu, il y avait la fenêtre ouverte sur le soir, comme un tableau qui n'en finissait plus. Il y avait aussi les figures des deux vieux amis, expressives comme des statues. Ils terminaient leur jour côte à côte, traînaient dans les mêmes coins d'ombre de lieu soleil, attendaient les heures dans les mêmes chambres et parfois se parlaient. Tout se trompe. Il n'y a que la fatalité, dit le vieux Dominique, en matière de conclusion à quelque chose qu'il avait eu ou croyait avoir dit. Non, répondit le vieux Claude, la fatalité se trompe elle aussi, comme les autres. Le premier parleur tourna sa figure et considéra son compagnon avec un peu de pitié et de mépris, mais sans étonnement. Car c'était naturel qu'à son âge, il divaguât un peu. L'autre secoua son cou divisé et décharné comme un fagot et tapa son genou avec le bois sec de sa main. Et il y a, ajouta-t-il, des choses irréparables qui se réparent. Murmura Dominique. Il leva au ciel ses yeux fragiles dans leurs orbites rouges, ému de penser que bientôt, peut-être, lui aussi, il parlerait pour ne rien dire de bon. J'ai épousé Bernardine dans le temps, dit Claude. Je me souvenais plus guère d'elle, mais l'autre jour, j'ai vu une fille qui lui ressemblait, alors je l'ai revue, elle. Et je repensais à elle toute. Je l'ai épousée. Et 2 mois après, avant, j'avais d'un coup de fusil cassé la tête de son père. Dominique fut soudain pris de peur à l'idée que son compagnon rêvait, délirait, et que de la sorte, il était lui tout seul dans la chambre. Hé, Claude, tu dors, cria-t-il, avec un tremblement surnaturel. Non, dit Claude, je pense s'endormir. Oui, je vais bien épouser la fille, et je vais bien envoyer au vieux une balle à travers les deux hampes. Faut dire d'abord qu'elle adorait son père et qu'il lui rendait bien. Il y a longtemps, dit Dominique. Calme et redevenu sage comme un enfant qui écoute. Oui, si longtemps qu'il me semble que je parle d'un autre, que tout ça c'est avant moi. Et le vieil homme reprit tout d'une traite, retrouvant comme un souvenir son langage disert d'autrefois. Oh, le père Barbeau était malin et honnête. Aussi, il ne voulait pas que j'épouse sa fille, à cause que j'étais impropre à rien. M'était bon à rien, en effet, qu'à aimer la fille, mais comme ceux qui ne font qu'une chose, je la faisais bien, celle-là. Il n'est pas possible d'être pris par quelqu'un comme je l'étais, par cette femme. Qui depuis est devenue vieille et morte, oh, il y a si longtemps. Faut m'écouter, Dominique. Oui, fit Dominique. Et il se rapprocha. Il voulait pas, donc. Tout le monde autour de lui essayait de lui changer son idée, mais faisant semblant de ne pas entendre ou de ne pas comprendre. On n'osait pas trop continuer parce qu'il était colère et solide, avec des bras de voilà, lutteur et des mains aussi dures que des outils. Un jour, j'osais, moi, lui parler en face. mais très, très bas. Il me jeta à la porte, tandis que la belle Bernadine s'était plaquée dans un coin de la cuisine et reniflait les poings sur ses yeux. Oh, j'étais fou d'impuissance, de honte, et je me dis, mais faut me tuer. Que m'importe désormais mon existence, puisque celui qui entraînait le charme et la joie était menaçant comme un diable et fort comme un bœuf. Toute une nouvelle démarche m'eût abouti, comme il donnait plus de confusion devant les autres. Il me sembla beaucoup plus commode d'en finir avec la vie. J'introduisis une balle dans mon fusil, ayant, en amoureux que j'étais, choisi une belle nuit, je courus droit devant moi dans la campagne. Je m'assis pour faire la chose sur le bord du chemin, près du tournant du briquet. Mais à peine avais-je vivement empoigné mon fusil que j'entendis, puis je vis, une voiture se rapprocher. Un pincement au cœur, c'était celle du père Barbeau. Et je me rappelais qu'effectivement, on était le soir du mois où il allait porter un sac de monnaie à Madame Templier. Cheval marchait au pas. La carriole me passa devant le nez. Et je l'aperçus, lui, courbé en avant, avec son grand corps massif et odieux, son nez en bec, sa vaste barbe pointue, sa sauvage silhouette noire comme celle d'un roi nègre. Alors, avoir aussi vautré devant moi la brute qui m'acculait aux pires extrémités, oh, une rage indicible me prit. Je me levai d'un bond, j'ajustai à la tempe et je tirai. Sans un cri, comme une masse, il piqua une tête en avant, s'abattit sur le croupe du cheval, qui, effaré, prit le galop, dérailla du chemin en tournant et se jeta à 50 pas en plein dans la ferme des Loriot. Je m'enfuis à toutes jambes, ébloui, étourdi, anéanti. Et j'étais déjà loin, détalant de toute ma vitesse affolée, lorsque je commençais à comprendre ce que j'avais fait. L'homme bondit que plus éperdument, aiguillonné à travers les champs et les bois, et moi, qui ai presque tout oublié d'autrefois, je me rappelle pourtant, comme si c'était d'hier, tous les buissons terribles que je franchis cette nuit-là, toutes les barrières magiques que je bousculais pour passer. Et c'est à peine si la certitude que j'allais me tuer en rentrant chez moi mettait un peu de calme et d'ordre dans le tourbillon de mes idées. Mais voilà que je m'aperçus que ma fuite de maudit m'avait porté à leur maison, celle qu'il venait de quitter, lui, mais où elle était, elle. Quand je le constatai, il était trop tard pour que j'aie la force de ne pas tenter de la revoir. La revoir à travers sa fenêtre, veillant vaguement, éclose dans l'ombre au reflet rouge de la cheminée. Je longeai le mur, haletant et frissonnant le plus bas possible, et je tournai. Ah! La fenêtre était ouverte, elle était là, accoudée. Elle était là, pâle comme un ange. Il me sembla même qu'elle rayonnait de quelque chose. Oui, elle souriait. Elle me vit, dressa quelques pas d'elle, poussa un petit cri, battit des mains et s'illuminait encore. Elle souriait mieux. Oh, c'est le ciel qui vous envoie, dit-elle. Le Père consent. Oh, il a vu comme je souffrais, et tout d'un coup, pour me guérir, il a dit oui. Avant de s'en aller, tout à l'heure, il a dit oui. Et il a ri. Je ne pus même pas proférer un cri. J'étais étranglé et aveuglé. Je ne sais comment je reculais, comment je rampais hors de ses regards, comment je me sauvais. Oh, je ne me souviens plus que du moment où j'arrivais chez moi, une main en avant, tâtonnante, l'autre crispée sur mon fusil, le seul trésor qui me restât au monde. Dans la cuisine, sans même allumer, sans même ouvrir les yeux, je cherchais et trouvais la bonne cartouche, et je chargeais le fusil. Mais j'étais tellement annihilé par cette affreuse cruauté du destin qui me perdait. Et comment? Sans m'avoir laissé le temps de savoir qu'elle m'avait sauvé, que je n'avais même pas d'ardeur à me détruire. Et est-ce pour cela que la balle dévia? Toujours est-il que je me sentis que la brûlure de son souffle et qu'elle m'arracha seulement une touffe de cheveux. Je chancelai et tombai à terre, me croyant mort, mais vivant. Je me réveillai au grand jour de midi. Je me retrouvai en gémissant. Mes oreilles bourdonnaient. Mais il y avait aussi un grand bruit dehors. Des gens et des attroupements fourmillaient. Justement, Jean-Jean, qui était alors mon l'aîné de quelques années et qui est mort de vieillesse, frappa d'un coup de poing à sa porte. Et d'un autre coup, il l'ouvrit et, introduisant par la fente sa figure ébréchée, il me cria « Le père Barbeau a été assassiné cette nuit sur la route !»« Ah bon ?» fis-je, blême, en me reculant tout au fond de la pièce. « Ces deux bohémiens de malheur, ajouta-t-il, on les a trouvés à cause du sac qu'ils avaient emporté. Ils ont tout raconté. Ils ont attaqué la voiture à la sortie du village, à deux pas de chez lui. Et le vieux a reçu 10 coups de couteau dans les dos. Alors il a été tué raide. Il y a une mare de sang. Puis ils l'ont rajusté sur son banc et laissé la voiture aller au pas. Et longtemps après, au tournant du briquet, le cheval s'est jeté dans la maison de Constantin. Je ne l'avais pas tué, puisqu'il était déjà mort. On n'assassine pas un cadavre. Tu vois qu'il y avait de la fatalité, mais qu'elle s'était trompée cette nuit-là.